Bien, bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans le Libre Journal de Géopolitique Profonde, en direct, en studio. Je remercie donc à la technique tout de suite pour la réalisation de cette émission. Virginie qui est là présente, on ne se quitte plus avec Virginie. Mercredi, nous étions déjà mercredi soir avec Lara Stam qui ne m'assiste plus, vous le savez chers auditeurs, le samedi puisqu'elle est elle-même actuellement dans une matinale avec je crois Régis de Castelnau. Mais je ne fais pas de publicité pour sa matinale, même si c'est sur Géopolitique Profonde, puisque nous sommes nous aussi. Et donc, c'est la concurrence totalement déloyale. Non, je plaisante. Loyale s'il en est. Eh bien, nous sommes sur Radio Courtoisie. D'ailleurs, cette émission, vous pourrez la retrouver sur GPTV Essentiel, une des chaînes de GPTV, dimanche prochain, en 8, à partir de 9h. Voilà, sur YouTube, avec les caméras. Alors que là, pour l'instant, en tous les cas, eh bien, vous nous entendez, mais vous ne nous voyez pas avec mon invité dans le studio. Auparavant et avant de saluer donc l'invité du jour, je remercie aussi à la technique. Ils sont venus en force. Donc n'hésitez pas, posez-leur des questions, des remarques, des observations, des coups de gueule. Des coups de cœur, si vous voulez aussi. Eh bien, il s'agit de Sylvie et de Jean-Loup. Patrice n'est toujours pas revenu, mais Sylvie, elle, est revenue. Donc, nous aurons et Sylvie et Jean-Loup au standard de Radio Courtoisie. N'hésitez pas, et si vous ne voulez pas, parce que vous êtes timide, ou parce que vous ne voulez pas téléphoner, envoyez-nous un courriel électronique à secrétariat, hein, je crois, @radiocourtoisie.com. Merci beaucoup Virginie. Voilà, que ferions-nous sans Virginie? Alors, écoutez, donc mon invité du jour, il s'agit, nous sommes le 9 mai, ça ne devrait pas vous étonner, Dimitri de Kochko. Bonjour mon cher Dimitri.
Bonjour Nicolas, merci, bonjour à tous les auditeurs et bonne fête de la victoire.
Et bonne fête de la victoire. Puisque, eh bien, hier, c'était en France, le 8 mai, et puis aujourd'hui, le 9 mai, pour, évidemment, la Russie, entre autres, cette victoire sur le nazisme, sur lequel nous allons revenir, 81e anniversaire de la grande victoire, la grande bataille, la grande guerre patriotique. Et nous en reparlerons aussi du fait qu'hier ont manifesté nos amis de la communauté russe, justement le 8 mai, par rapport justement au régiment des immortels, par rapport à une manifestation qui s'est déroulée. On va y revenir dans un instant avec Dimitri de Kochko, et puis nous évoquerons bien sûr dans cette émission un 9 mai sous tension, sous haute tension, pour différentes raisons. Dont on parlera avec Dimitri de Kochko. Auparavant, et très rapidement, si vous le voulez bien, une courte revue de presse, donc nous l'évoquerons plus tard, les cérémonies du 9 mai avec un cessez-le-feu des plus précaires, on va y revenir, négocié, semble-t-il, hier soir par Trump entre Zelensky et Poutine. On verra ce qu'il en est après les menaces du président, si plus très légitime, en tout cas non élu, Volodymyr Zelensky, dit Vova, hein, dans les, on dit Vova puisqu'il s'appelle aussi, c'est son petit diminutif, et il semblerait que ce soit un petit diminutif qu'il confonde dans des affaires de corruption. Dernièrement, on disait, il ne faut pas oublier la maison pour Vova, dans les corruptions liées à l'Ukraine. Bon, ça, on y reviendra peut-être aussi. Donc, cela, les cérémonies, les menaces d'attaque, de drones qui... au-dessus du défilé, un défilé réduit presque, pas à sa plus simple expression, mais il n'y aura pas, comme ce fut le cas pour les 80 ans, de matériel militaire, semble-t-il, mais par contre des hommes en armes pour défiler. Eh bien, ce sera donc le thème principal de l'émission. Auparavant, sur la revue de presse, on a la tournée africaine de Macron. Macron à Nairobi. Macron, et je le fais exprès, donc je ne mettrai pas d'argent dans le cochonnet, parce que sinon il nous coûterait cher. Forcheur, Macron forcheur, qui trouve le moyen, eh bien, alors que l'Afrique c'est beaucoup la francophonie, eh bien, le forum où il est accompagné d'une vingtaine de grands patrons, Macron l'a appelé sous sa présidence Africa Forward. Superbe. Africa Forward, voilà comment le destructeur, le liquidateur de la France appelle le dernier sommet africain. Voilà, avec un terme, avec un anglicisme, ça me semble être tout à fait insupportable. Nouveau paradigme, nouveau titre, titre la presse en choisissant cet intitulé En avant l'Afrique. Et on est content de savoir qu'Africa Forward, c'est En avant l'Afrique. En marche, peut-être aussi, il aurait pu, pour le sommet qui se tient donc lundi. Et mardi à Nairobi au Kenya. Alors il faut savoir qu'il fera une petite tournée en Égypte, au Kenya. Il n'ira pas dans les pays où il allait habituellement, hein, les pays de l'ex-France-Afrique, parce que ça fait un certain temps que, administrant les justes coups de pied au cul, la France aujourd'hui a été éjectée de cette partie de l'Afrique, et ô combien à juste titre. Nous n'avons pas à faire notre propagande woke LGBT, nous n'avons pas à donner des leçons de morale, droit de l'homiste, aux pays africains, pays adultes, pays aujourd'hui indépendants, qui n'ont pas à subir la morgue, l'arrogance de foutriquet, de notre foutriquet national. Résultat, eh bien, on s'est fait dégager aujourd'hui de ces pays, et ça peut se comprendre, donc nous irons et nous finirons avec l'Afrique anglophone, c'est à peu près tout ce que nous méritons. Donc ça, c'était pour dire vite envoyer le sujet de Nairobi, le sujet donc du sommet de Nairobi avec Macron, où il sera pendant 4 jours entre l'Égypte et le Kenya. Ce autre sujet rapidement évoqué, les élections en Grande-Bretagne avec UKIP de Nigel Farage qui remporte les élections locales, qui montre la déconfiture de Keir Starmer du parti Labour, des conservateurs aussi, les écolos qui montent, mais le grand vainqueur, eh bien, c'est Nigel Farage, le souverainiste. C'est d'ailleurs dans les comtés, dans les régions où on a le plus voté pour le Brexit que les résultats de Nigel Farage ont été les meilleurs. N'en est pas surpris, mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite, même si Keir Starmer refuse encore une fois de démissionner après ce revers électoral majeur. Voilà à peu près ce que j'avais envie de vous dire. On pourrait très rapidement, et puis je vais poser la question à notre invité s'il veut faire une réaction globale sur cette courte revue de presse, puisque je n'ai pas Lara avec moi, ça va beaucoup plus vite. Dernier sujet, évidemment, le Proche et Moyen-Orient. Trump attend une réponse à sa dernière proposition de cesser le feu et de paix de la part de l'Iran d'ici ce soir, dit-il. Il y a eu des échanges de frappes. Néanmoins, on voit que Trump ne cherche pas spécialement, semble-t-il, à retourner à la bataille, contrairement aux Israéliens qui bien le poussent, mais ils l'ont piégé une fois. Pas sûr qu'ils le piégeront cette fois-ci à nouveau, même si on peut se demander ce qui s'est passé il y a quelques jours avec les Émirats Arabes Unis, attaque sous faux drapeau à ne pas exclure de la part d'Israël. On a accusé l'Iran d'avoir envoyé des missiles et des drones de façon assez surprenante. Et on se demande, et après les dénégations de l'Iran, qui réellement a frappé les Émirats arabes unis. On sait que des pays comme le Qatar, comme l'Arabie saoudite aujourd'hui, appellent à des négociations et que notre porte-avions, eh bien, lui, se retrouve à quelques encablures de la guerre. Sommes-nous tout près de la guerre? Non, je ne le pense pas. Mais en tout cas, Macron a envoyé son petit porte-avions sur place. Il ne manquerait plus qu'il nous le coule. Très bien. Eh bien, écoutez, je me retourne les yeux exorbités, Dimitri, qu'il nous le coule. Peut-être avant hein, de traiter du 9 mai.
Ça serait pas drôle quand même hein, s'il le coule parce que ça coûte cher un porte-avions.
Ah oui, oui, ça coûte fort cher, plusieurs milliards.
Je suis pas complètement persuadé qu'aujourd'hui, un porte-avions soit indispensable pour la France compte tenu de la situation de nos finances.
En plus. Et on, mais pourtant, il y en a un qui est lancé en construction.
Ah. Oui, non, non, bien sûr. Mais en fait, si je puis me permettre, mais. Je pense que c'est le domaine maritime de la France qu'il faut défendre.
Ah oui.
Donc, effectivement, la flotte exige de l'argent, mais je ne suis pas sûr que ce soit avec un porte-avions. Parce que le porte-avions, c'est vraiment très lourd, ouais. C'est pas très souple, ça exige toujours une escorte. Et puis aujourd'hui, quand des drones pas très chers peuvent être chargés d'explosifs suffisants pour neutraliser le porte-avions, on n'envisagera absolument pas que des marins français puissent s'amuser à boucher les toilettes.
Non.
Mais bon,
non,
mais en tout cas, vous vous rendez bien compte.
Comme dans Gérald Ford. Ouais.
Donc je pense qu'il nous faudrait plutôt beaucoup de bateaux pour défendre notre domaine maritime, qui lui reste l'élément permettant
frégates,
à la
par
France...
exemple.
Permettant, je ne me connais pas assez.
Oh, les frégates,
permettant,
c'est bien.
Permettant à la France d'être, de rester une puissance qui peut compter dans le domaine international. Parce que comme on a perdu l'Afrique, ou enfin quasiment, et puis bon, effectivement, déjà la guerre contre la francophonie avait commencé avec le Rwanda. Hein,
oui.
En nommant
totalement.
Enfin, en faisant nommer
quelqu'un de la culture,
qui supprime le français au Rwanda.
Au Rwanda, voilà, à la tête de la francophonie.
À la tête de l'agence de la francophonie, excusez-moi, mais bon bref. Donc, alors, moi, une de mes bagarres pour aller à
la transition, sur la francophonie et
c'est
sur l'Afrique.
Voilà. Vous savez que maintenant, il y a les sommets russo-africains.
Oui, 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 absolument.
Et qui sont, alors qu'ils sont en truc.
Dont le dernier avait eu lieu à Moscou, je crois, d'ailleurs.
Oui, oui, mais là, ils en préparent un troisième. Hein.
Ouais.
Et dans ces sommets-là, ils parlent en russe et en anglais. Et moi, je me rappelle que déjà le deuxième, tous ceux que j'avais pu voir comme journaliste, hein,
les responsables russes,
à chaque fois, je disais, mais enfin, c'est scandaleux. Que vous fassiez que d'anglais.
Et pas français.
Il faut mettre le français. Enfin, c'est... Et quand on voit, quand il y a des réunions à Moscou qui se font, le français, il est porté par les Africains. Heureusement. Et c'est ce qui justifie le fait que les classes de français dans les universités, notamment, continuent à exister. Et de ce point de vue-là, moi, j'appelle d'ailleurs les gens qui ici, s'intéressent un peu à la relation internationale. Vous pouvez prendre contact avec les universités russes qui font du français, parce qu'en plus, ils sont hyper francophiles. Et ils font même, il y a même un journal qui s'appelle Salut, ça va, je crois, qui est fait par une rédactrice en chef qui vit à Blagoveshchensk. Bon, alors, c'est en Sibérie, très loin. Hein. Et à la frontière chinoise, quasiment. Et qui fait du français. Et c'est un journal écrit en français, qui se diffuse dans les universités, etc. Vous pouvez la voir par courrier électronique.
Donc l'Afrique, on en a parlé, les mouvements souverainistes qui se portent bien, ailleurs qu'en France tout du moins, en Grande-Bretagne, Nigel Farage.
Jouer, l'ennui c'est que Farage, je veux voir la suite aussi quand même. C'est très bien, hein, sans doute ce qu'il a fait pour la Grande-Bretagne, nous on n'a pas à en juger, toutes les façons. Maintenant, les aspects néo-conservateurs de Farage... Ils me font un peu plus peur, mais ça, c'est autre chose.
Il avait copiné au début avec, avec Musk et autres, mais je crois que ça, c'est pas bien fini, pas bien terminé.
On va voir, mais je veux dire...
De toute façon, c'est un Britannique, hein, c'est un Anglais, il faut pas rêver non plus.
Voilà, je crois qu'il faut quand même toujours se souvenir
bah oui,
de Jeanne d'Arc, Fashoda, Dunkerque. Ah, bref, vous connaissez la chanson.
Et rappeler le mot, toujours se souvenir du mot de Cambronne, qu'il faut leur administrer de temps en temps.
Mais ils aiment bien. Ils aiment bien. Non, parce que les Anglais sont quand même des gens qui ont une histoire aussi.
Oui, oui.
Qui ont une civilisation. Alors, l'ennui, c'est que la France se fait toujours rouler par eux.
Ah oui, oui.
Et ça, moi, je trouve ça un petit peu dommage.
En particulier diplomatiquement.
Mais regardez, la guerre de Crimée a sans doute été l'exemple... un des derniers exemples, en tout cas, les plus meurtriers pour la France. La France est allée là-bas pour rien du tout. C'est la France qui a perdu le plus de soldats dans l'alliance avec les Anglais et les Turcs. Et pourquoi faire? Simplement pour appeler un boulevard Sébastopol, un pont Alma et une ville Malakoff. Enfin, écoutez, c'est ridicule quand même. C'est ridicule. Et pourquoi je cite ça? D'abord, on l'oublie un peu, nous, dans l'histoire de France, malgré le fait qu'on ait les rues, justement, et les toponymes, mais parce qu'on se retrouve dans une situation très similaire. Très, très similaire. Et vraiment, on ne voudrait pas ça.
Hein. Bien sûr. Très bien, Dimitri. Bon, bien écoutez, on a fait le tour, je pense, de ce qui pouvait être la revue de presse. On va rentrer un petit peu dans le sujet du jour, qui est les cérémonies du 9 mai, puisque nous sommes le 9 mai, du 8 et du 9 mai, de la victoire. Et peut-être commencer donc, à tout seigneur, tout honneur, vous avez organisé, vous étiez un des organisateurs en tous les cas, pour dire précisément, de cette manifestation qui s'est déroulée, qui devait se dérouler entre la République et le Père Lachaise, qui s'est déroulée entre les stations Filles du Calvaire jusqu'au Père Lachaise, qui a été très difficile à organiser, semble-t-il, avec des ordres, des contre-ordres de la préfecture. Donc jusqu'au dernier moment, vous vous êtes demandé si vous pourriez ou pas manifester, surtout que c'était une manifestation qui n'était pas statique. Il y avait un cortège qui devait se
traditionnellement, c'est une marche.
Voilà, c'est une marche,
oui,
bien sûr.
Bah, oui. Ça a évidemment quelque chose de religieux, hein, puisque les chemins de croix...
Comme toutes les ou les processions, bien sûr.
C'est ça, c'est les processions dont le Moyen-Âge était friand dans toute l'Europe. Ça aussi, c'est une tradition européenne, évidemment, et c'est de ce point de vue-là qu'on tient cette marche.
Dans cette marche. Marche donc qui n'a pas été évidente, mais qui a fini par se dérouler.
Bon, on ne va pas revenir sur les mauvais souvenirs.
Et voilà.
On remercie la préfecture de nous avoir laissés et de nous avoir franchement très très bien protégés.
Oui, alors il y avait beaucoup
de... Les policiers ont été vraiment d'abord très sympas, très efficaces.
Mais alors ça veut dire pourquoi...
Et là, il faut quand même les remercier.
Enfin, il faut les remercier, moi je veux bien, mais...
Enfin, c'est leur boulot, je comprends bien, mais enfin,
mais
quand même,
comment ça se
ils
ne
sont
fait
pas
que...
obligés.
Comment ça se fait qu'en France, on ait besoin d'une manifestation de personnes entre autres de la communauté?
C'est une commémoration, c'est pas une manifestation, c'est une commémoration.
Non, mais moi ce que j'aimerais, c'est...
C'est une procession.
Oui, donc en plus, pourquoi y a-t-il besoin en France aujourd'hui d'autant de forces de l'ordre pour protéger ce type de marche?
Il y a eu des menaces qui ont été faites, notamment par des tendances de ce qui est des Ukrainiens, si vous voulez, des pro-régime Zelensky, qui ont un peu tendance à confondre une procession, justement, avec une manifestation politique de soutien au gouvernement russe actuel. Mais c'est absurde, c'est effectivement une commémoration de victimes, d'abord. Alors il y a d'autres sens derrière aussi, hein, puisqu'il y a un rappel historique aussi, notamment en direction des générations plus jeunes. Et puis il y a évidemment aujourd'hui la volonté de répondre au bruit de bottes en disant non, plus jamais ça, rappelez-vous de ce que ça a été, et maintenant ça sera pire, il n'y aura pas de gagnant cette fois-ci. Parce que là encore, on fête la victoire parce qu'il y a eu une capitulation. Mais la prochaine fois, il risque de ne pas y avoir de capitulation parce qu'il n'y aura plus personne pour la signer.
Pour la signer, la paix, oui.
Donc c'est dramatique. Et c'est ça le sens de notre procession. Il y a trois sens. Mais le premier sens, c'est quand même la commémoration des victimes. C'est quand même de pleurer chacun par son nom, comme dit le poète, et de que notre peine serve justement ce deuil. Et puis que c'est important de commémorer ce genre de choses, non pas parce qu'on est des vieux gâteux nostalgiques, mais parce que c'est indispensable pour les vivants, pas pour les morts, à la limite, eux, ils s'en foutent. C'est les vivants qui doivent s'en rappeler, c'est les nouvelles générations. Et s'en rappeler comment? Intellectuellement, parce qu'on va leur raconter comment les choses se sont passées et qu'il ne faudrait pas qu'elles se repassent de la même façon. Mais aussi, ça va se passer dans la dynamique de groupe, en quelque sorte, comme on aimait à dire, parce que les jeunes qui viendront à ce genre de procession, pour eux, ça deviendra quelque chose de cher, de familial, de nouveaux amis, de rencontres. Là, par exemple, hier, quand on s'est rencontrés, il y a des tas de gens qui étaient contents parce qu'ils se voyaient. C'était un peu comme on se voyait de temps en temps à la messe, si vous voulez, avant. On retrouvait des gens qu'on ne voyait pas depuis longtemps. Mm-hmm. Et bien, c'était un peu ça qu'il y a eu. Et de ce point de vue-là, en plus de ça, ici en France, à Paris, la marche du régiment immortel, dont l'idée, effectivement, est une idée russe, qui date d'une ville de Sibérie, attention, qui a maintenant une vingtaine d'années. Hein. Donc c'est une initiative qui est une initiative civile. Elle a été récupérée aussi par le gouvernement russe, incontestablement. Mais vous savez, les récupérations, ça se fait souvent, hein, ce genre de choses. Surtout que c'est une manifestation qui permet de préserver une identité nationale et qui, en plus, dans le cas de la Fédération de Russie, qui est justement une fédération avec des tas de nationalités et de peuples, est un élément de cohésion nationale, puisque c'est une guerre qui a concerné tout le monde, y compris les Ukrainiens. Donc, quand des Ukrainiens, aujourd'hui, nous balancent des menaces en disant « va falloir laisser défiler les Russes », etc., en plus, sur une base ethnique, Et racial, finalement. Enfin, c'est absurde. Les menaces qu'ils ont formulées, c'est ça. C'est ridicule. Alors, c'est vrai que l'Ukraine, c'est plus compliqué, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale...
Ils ont peut-être l'impression d'être dans le camp des vaincus.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'Ukrainiens qui ont combattu du côté de l'armée rouge. Mais il y a aussi des Ukrainiens qui ont combattu.
Il semblerait que les admirateurs de la division Galicie aient manifesté il y a quelques jours. Donc là, ce sont les SS. Hein.
Comme chaque année, ce sont des SS. C'est un des drames de l'Ukraine.
C'était à Lvov.
C'est que malheureusement, c'est cette tendance qui existait dans un nationalisme, on peut y revenir après, dans le nationalisme ukrainien, ce qui fait que dans cette guerre, effectivement, il y a eu des Ukrainiens dans les deux camps. Ouais. Il y en a eu plus qu'ailleurs. Parce que des gens dans les deux camps, il y en a eu un peu dans tous les pays, y compris en France.
Y compris en France.
Mais on gomme un peu le sujet, le général...
On gomme pas tant que ça, je trouve.
Il y avait des gens, il y avait la LVF...
On le rappelle quand même suffisamment souvent aux Français, hein. Ils ont été collaborateurs. Hein.
Non, mais ils n'ont pas été que collaborateurs, ils ont aussi été résistants. Alors c'est justement ce que je voulais dire, c'est que notre procession, là, elle n'était pas qu'une communauté russe. Elle était beaucoup plus large que ça.
Donc on rappelle
elle
d'ailleurs,
était
c'était
vraiment moitié-moitié.
C'était la marche du régiment des immortels, hein. Vous pouvez préciser ça peut-être.
Absolument, absolument. Okay. Et c'était fêté justement... Par notamment des organisations tout simplement gaullistes. D'ailleurs, il y avait au moins autant de drapeaux français avec la Croix de Lorraine que de drapeaux de la libération. Là, vous savez, les drapeaux soviétiques qui a été mis sur le Reichstag, avec la fameuse photo où il y a le soldat soviétique qui met le drapeau sur le Reichstag.
D'ailleurs, vous l'avez fait lui. Oui, tout à fait, absolument. Mais donc, d'ailleurs, vous l'avez fait lui, mais vous ne l'avez pas fait 9 mai.
Mais c'est normal, c'est la preuve qu'il n'y a pas que... France. Voilà, c'est ça. On est en France. C'est le 8 mai.
Oui, bien sûr.
Vous savez pourquoi c'est le 8 mai et le 9 mai?
La
capitulation allemande a été signée
Berlin,
deux fois.
Ouais, c'est ça.
Elle a été signée à Reims d'abord, ensuite elle a été signée à Berlin.
C'est ça, à la demande de Staline.
À la demande de Staline, mais aussi en présence des Français, avec Delattre, qui était là-bas et que les Allemands ne voulaient même pas, enfin, ne voulaient pas en sa présence, etc. etc. Mais l'histoire est connue. Mais ça a été signé à 23h. 23h, il était
avec,
déjà
voilà, un décalage horaire.
Ouais,
voilà.
Donc, c'est eux, ils fêtent ça le 9.
C'est ça.
Et nous, c'est le 8.
Le 8.
Mais si toutefois, ce n'est pas supprimé.
Le 8 pourrait faire partie de ces jours fériés, en tout cas. Supprimé, non, mais ne plus en faire un jour férié, c'est possible.
Mais ça veut dire qu'on va l'oublier totalement.
Oui, ben bien sûr.
Et ben, ça, moi, je pense que ça serait assez grave. Parce que le 8 mai. On commémore le 11 novembre. C'est vrai que la Première Guerre mondiale a saigné la France, et donc on a la mémoire de ça, on a des monuments aux morts dans chaque village de France.
Tout à fait.
On n'envisage pas d'enlever le 11 novembre. Bien que je suis sûr, dans la jeune génération, malheureusement, il y a plein de gens qui ne savent même pas ce que c'est.
Probablement.
D'autre part, ils ne connaissent pas la différence entre un armistice et un traité de paix, une capitulation, comme il y a eu le 8 mai 45 ou le 9 mai 45. Là aussi, c'est l'enseignement de l'histoire qui est en cause quand même.
Ah oui.
Et c'est le deuxième sens, je dirais, de notre procession, c'est qu'en France, il y a des manuels d'histoire qui oublient totalement le rôle de l'Union soviétique dans la victoire sur le nazisme. C'est et injuste et une erreur d'analyse.
Oui, total.
Annie Lacroix-Riss, donc l'historienne communiste, excellente quand même par ailleurs, hein, qui dit que dans les manuels de terminale, il n'est même pas fait mention de la bataille de Stalingrad. Or, la bataille de Stalingrad et celle de Koursk qui a suivi, hein, c'était la transformation, comme on dirait en rugby, a joué un rôle important pour la France, puisque c'est un des éléments, je dis bien un des éléments qui a permis à De Gaulle d'être reconnu au Conseil national de la résistance en Afrique du Nord. Enfin, tout de même, ça a joué un rôle. C'est pas par hasard que partout en France, on a des endroits qui s'appellent rue Stalingrad, quai Stalingrad, place Stalingrad. Alors aujourd'hui, compte tenu de la vague de russophobie politique, en fait, qui est une politique en France, pour la France, d'une certaine tendance qui veut essayer de gommer l'identité française au profit d'une pseudo-identité européenne, européiste plutôt. Mais alors, il y a quelques communes qui veulent essayer de se supprimer Stalingrad. Mais en fait, si on y regarde de près, la population de ces villes où il y a un Stalingrad ne savent pas forcément ce que c'est que Stalingrad. Nous, quand on a fait des commémorations à la place de la bataille de Stalingrad à Paris, on a essayé de faire un peu un sondage autour de nous, puisqu'il y a des gens qui passaient, qui se demandaient un peu ce que c'était. Eh bien, il y avait plein de jeunes qui ne savaient pas ce que c'était que Stalingrad. Il y en a qui pensaient que c'était un groupe de musique. Non, c'est vrai, c'est quand même... C'est grave, quand même. Il y a un arbre sur la place de la bataille de Stalingrad. Il y a un arbre qui a été planté par le conseil municipal en 1945 pour commémorer justement cette bataille de Stalingrad. Autour, il y a des monuments, des petits plots sur la bataille de Verdun, sur Bir Hakeim. Bir Hakeim, c'est aussi une bataille importante dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque ça a montré que les Français étaient aussi des combattants.
C'est ça. Ça fait.
Et Stalingrad. C'est-à-dire, on met ça sur le même point et on l'introduit dans notre histoire aussi. Et puis maintenant, on la raye de nos manuels, ça n'existe plus. Donc ça aussi, il faut le rappeler quand même. Il faut quand même que les gens, et notamment la jeunesse, se rendent compte de cette unité européenne de fait. Parce que la Russie, ça fait partie de l'Europe. Ça fait partie de l'Europe dans le domaine culturel, ça on le sait. Mais ça aussi fait partie dans le domaine militaire. Et dans une certaine mesure, dans un domaine culturel, humain et idéologique, puisqu'on a ensemble rejeté le nazisme, qui malheureusement a laissé quelques charbons ardents un peu dissimulés, mais qui aujourd'hui ont un petit peu tendance à se rallumer.
Alors, vous allez même un petit peu plus loin dans la polémique, justement, par rapport aux États-Unis, dont Trump, aujourd'hui, fait de cette cérémonie, de ces commémorations du 8 mai, eh bien, une victoire exclusivement américaine. C'est grâce aux Américains que nous ne parlerions pas allemand, en tout cas, prétend Trump. Et vous écrivez, justement, dans l'appel, justement, de cette manifestation du régiment des immortels du 8 mai, c'est parce que les Français ont su unir leurs forces en profitant souvent de l'impact des victoires à l'Est, que la libération de 1944 ne s'est pas terminée en occupation militaire américaine appelée AMGOT.
Là, vous lisez à Eric Branca et vous dites tout sur le sujet.
Oui.
Entre l'ami américain et les 300 jours d'avant la victoire contre Hitler. Je pense que, franchement, la lecture d'Eric Branca me paraît être quelque chose d'indispensable aujourd'hui pour tout Français. Pour comprendre les choses et avoir un point de vue un peu plus clairvoyant et sur les relations internationales et sur les ambitions des uns et des autres. Et encore une fois, c'est pas les Américains qui sont fautifs, c'est nous de tout accepter et de croire à ce que nous raconte le narratif américain. Mmh. Et puis, bon, bah, évidemment, ils savent avoir des gens à leur service. Ils savent faire ça.
On rappelle que De Gaulle n'allait pas célébrer le 6 juin, hein, le débarquement de Normandie. Il s'y refusait et il savait pourquoi. Overlord veut bien dire ce que ça veut dire.
C'est
une suzeraineté.
En revanche, il célébrait celui de Provence, oui. où les Français ont joué un rôle.
Oui, ont joué un rôle.
Et donc ça aussi, il faut qu'on s'en souvienne. Et c'est ça, nous aussi, dans cette procession, et c'est pour ça qu'on a eu des intervenants qui ont rappelé le rôle de la France, qui ont rappelé aussi les victimes françaises du nazisme, parmi leurs ancêtres ou les combattants qui ont pu prendre part à cette guerre. Ça me paraît important. Et quand on a lancé le mot d'ordre, en quelque sorte, de vaincre le nazisme, c'est évident que c'était un rappel historique, d'abord. Mais c'est aussi un cri d'alerte, et sans doute d'inquiétude, parce que des éléments du nazisme, malheureusement, renaissent. Alors, est-ce qu'on peut commencer à développer déjà aussi cet aspect-là ?
On va y venir. On a peut-être déjà des questions d'auditeurs, enfin des remarques d'auditeurs sur lesquelles on peut faire un commentaire rapide, si vous le voulez, Dimitri. Mmh. Bonjour messieurs, nous dit cet auditeur, je réagis sur vos commentaires sur la protection par la police. Désormais, on va à la messe, en particulier pour Noël et Pâques et quelques processions, sous la protection de la police ou des militaires de sentinelles. Là, la police en fait beaucoup trop et est absente quand on aurait besoin d'elle. Quelle image cela donne-t-il de notre foi ? Je compte avant tout sur la protection de notre Seigneur, nous dit cet auditeur. Un autre auditeur qui va dans le sens de de ce que vous allez pouvoir développer un peu là d'ailleurs, Dimitri. Bonjour messieurs, les européistes veulent effacer la journée du 8 mai. 45, il demande de supprimer la journée fériée, ainsi la victoire contre les armées allemandes nazies doit disparaître. Les européistes sont pour la construction de l'Union européenne sous la protection des descendants de nazis et pour la construction du 4e Reich. Bon, bah, hein, choses sont dites. Vous dites d'ailleurs aussi sur le régiment des immortels du 8 mai, aujourd'hui l'Europe est en guerre à nouveau et des fascistes à l'ancienne ou sous de nouveaux habits sont présents sur son sol.
Bah, malheureusement, on peut dire ça, oui. Alors, bon, sur les analyses du nazisme, il y a plusieurs démarches. Alors, je dirais, l'analyse la plus économico-sociologico-marxiste, c'est que le nazisme est en fait une formule idéologique et militaire pour défendre le capitalisme au moment d'une montée de revendications ouvrières ou prolétariennes, pour reprendre les termes marxistes. C'est un peu la thèse qui est développée par Daniel Guérin sur le fascisme et grand capital. Ça me paraît une thèse assez intéressante, en fait, sur les causes assez profondes de la venue et de l'acceptation du phénomène nazi dans une société. Ça, c'est les raisons économiques, et c'est des raisons qui expliquent partiellement, peut-être, et la victoire en Allemagne, et la victoire du nazisme en Allemagne, et l'acceptation par certaines couches sociales en France de l'arrivée d'Hitler. Mmh. Donc l'idée de « mieux vaut Hitler que Léon Blum », des choses comme ça, ça correspondrait un peu à ça. Mais il y a un autre aspect dans le nazisme, c'est justement les aspects plus idéologiques et plus allemands, je dirais, qui ont existé dans toute l'Europe et qui aujourd'hui nous nuisent d'une certaine façon à ne pas comprendre les autres peuples parce qu'on a toujours une condescendance vis-à-vis d'eux en s'estimant, nous, supérieurs, plus intelligents, etc. Ce qui aujourd'hui est démontré par l'Iran que ce n'est pas forcément le cas. Sans oublier les déboires qu'on peut avoir avec les Africains aujourd'hui, et notamment dans l'Afrique francophone. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est le jugement par l'ethnie, par la discrimination et par la volonté d'une pureté raciale, ethnique, etc. La caricature de cet aspect-là, c'est malheureusement en Ukraine qu'on la trouve. C'est une idéologie, l'idéologie que je dirais ukrainiste, qui aujourd'hui a triomphé, en fait, hein, dans le pouvoir de Kiev et qui est utilisée par l'OTAN.
Comment expliquer ? Parce que là, l'analyse marxiste, elle est un peu courte là, sur l'Ukraine.
Ah non, non, mais là... Non, non, le nazisme, justement, cet aspect nazisme ukrainien, là, c'est effectivement pas par le caractère de classe, c'est par le caractère idéologique. C'est-à-dire que l'ukrainisme a été fabriqué, en quelque sorte, sous l'Empire austro-hongrois par les Autrichiens. N'oubliez pas que toute la partie de la Galicie, donc de l'ouest de l'Ukraine, était, après le partage de la Pologne, hein, du royaume polono-lituanien, hein. Le royaume des deux mers, on appelait ça, a été attaché à l'Autriche. Donc c'est en Autriche où on voulait lutter contre l'aspect slave des Ukrainiens qu'on a inventé un espèce de nationalisme ukrainien inspiré des idées de 1848, de la construction des nations, du évidemment de l'unité allemande, et avec l'idée de justement d'une nationalité supérieure, d'une ethnie plus propre, plus nette, plus etc. Et ça a été hérité avec certains intellectuels ukrainiens ou d'origine ukrainienne en Autriche. Notamment un dénommé Dmitri Dontsov, hein, qui est des théoriciens de la chose, qui rêve d'une ethnie pure en Ukraine. Ce qui est déjà une aberration en passant, hein, puisque ce sont des terres qui ont toujours été des lieux de passage des grandes migrations ou des grandes conquêtes de beaucoup de populations. Donc aller rechercher là-dedans des ethnies pures, c'est un peu difficile. Bref. Je pense qu'aujourd'hui, cet héritage, donc, qui a eu un peu les mêmes sources que le nazisme allemand, en fait, par le biais autrichien, M. Bandera était quelqu'un de l'Empire autrichien. Bandera est le chef du nationalisme qui est aujourd'hui vénéré, qui a été un collaborateur des Allemands, même si quelquefois il a eu quelques tensions avec les Hitlériens pour des raisons justement de nationalisme ukrainien, eh bien, c'est cette volonté d'avoir une ethnie pure, unique, une langue qui a quand même été fabriquée assez artificiellement en regroupant plusieurs idiomes locaux, plusieurs patois, assez différents selon les régions, pour en fabriquer une langue, bon, qui est une langue aujourd'hui, hein, incontestablement, je dirais, a perdu l'Ukraine quand elle a pu devenir indépendante pour de bon, parce qu'il y a eu des petits moments d'une indépendance d'Ukraine qui n'était pas du tout sur les mêmes territoires, d'ailleurs, ou en tout cas pas uniquement sur les territoires d'aujourd'hui, hein. En 90. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est un pays formidable, hein. C'est un pays qui, en plus, climatiquement, au niveau de la terre, il y a le Tchernosium, la meilleure terre du monde. Il y a, en plus, toutes les industries que les soviétiques ont constituées en Ukraine, quand même. Tout ça, on peut dire que ça a été fichu en l'air pour des raisons idéologiques, parce que se sont emparés du pouvoir avec l'aide, il faut bien le dire, des Occidentaux, notamment des États-Unis. Qui voulait faire de l'Ukraine, et ça, M. Brzezinski, dans son grand échiquier, l'explique très bien, en disant l'Ukraine est un État volet, du même que l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan sera surveillé, hein, dans les... Bon, c'est une façon d'attaquer la Russie. Ouais. Et l'Ukraine s'est fichue en l'air en voulant rejeter les trois quarts de sa population sous prétexte qu'elle n'était pas dans l'ethnie pure. Voilà un des méfaits du nazisme.
Alors, on a beaucoup dérivé, Dimitri, par rapport au sujet des célébrations du 9 mai. Oui, mais l'Ukraine n'est pas le thème... Enfin, moi, j'aimerais surtout parle de la Russie. D'abord, des auditeurs. Un auditeur, cher Nicolas, Monsieur de Koshko, dit « Les États-Unis savent utiliser les politiques français. » Il me semble entendre de sa part une certaine admiration. Me trompais-je? Mais avec quelle méthode de chantage? Trump a bien dit, contre Macron, j'ai un dossier épais comme ça. Il y a de l'admiration.
Il n'y a pas que le chantage. Je citais tout à l'heure Éric Branca.
Ouais.
Éric Branca raconte bien qu'avant l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, du retour au pouvoir, pardon, du général de Gaulle, tous les partis politiques français, en dehors des communistes et des gaullistes, allaient à l'ambassade tous les mois recevoir la petite enveloppe. Donc les Guy Mollet et compagnie, là,
oui.
Eh bien, évidemment, c'était peut-être parmi les mieux servis. Hein. Écoutez, c'est pas complètement nouveau. Enfin, on a quand même le rôle de Jean Monnet pour la construction européenne, mmh. avec des Schuman et autres, et sans compter le rôle tout de même du premier secrétaire, j'oublie toujours Walter Hallstein, qui était donc oui. le premier, en quelque sorte, commissaire européen, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, qui était un SS, qui avait le projet Charlemagne, donc, sur lequel, qui a servi de modèle, dans une certaine mesure, à la construction de l'Union européenne.
Tout à fait.
Faut quand même ne pas oublier les sources. Là, je dirais que le bouquin de De Villiers sur « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu », c'est un livre aussi à lire. Hein. Là, j'en conseille deux. Moi, c'est Branca et De Villiers.
Et De Villiers. Un auditeur. Bonjour, messieurs, votre détestation. Alors, c'est intéressant. Là, on va pas y passer non plus toute l'émission, mais ce qu'il dit est intéressant. Et il faudra réagir, bien sûr, par rapport à ça, Dimitri. Bonjour, messieurs. Votre détestation du nazisme, bien légitime, devrait s'accompagner d'une détestation égale du stalinisme, qui a fait bien plus de morts. Or, la tombe de Staline est toujours fleurie, sans parler du mausolée de Lénine. Les nazis ne sont devenus des tueurs en série qu'après être entrés en zone soviétique et avoir pris connaissance des décomptes macabres opéré par les hommes de la GPU et autres. Et au risque de vous choquer, n'étant ni juif ni communiste, si j'avais vécu dans ces zones martyrisées par l'histoire, j'aurais longtemps hésité entre Staline et Hitler et aurais peut-être parié sur Hitler pour éviter la déportation en Sibérie. Pensez aux Baltes, au peuple caucasien. Enfin, quelques chiffres en 1939, avant la guerre. 10 000 morts en Allemagne, mais à la même date, 10 millions déjà de morts en URSS, un rapport de 1 à 1000. Pour le reste, je partage vos positions sur le désastre de la guerre en Ukraine. Si vous répondez à ça...
Voilà, il faudrait une émission entière là-dessus, je dirais. Alors... Bon,
Je partage une bonne partie de ce que dit cet auditeur à titre personnel, je vous le dis.
Oui, mais il y a des...
Pour moi, le stalinisme est une infamie.
Oui, moi aussi. Mais c'est pas pour autant que le stalinisme est égal au nazisme, c'est pas vrai. Le stalinisme est un élément totalitaire, c'est une confiscation d'une révolution qui avait des idéaux... et qui était peut-être pour le moins difficile à mettre en application, je dirais, peut-être une dégénérescence bureaucratique. C'est paradoxalement, hein, avec toute la monstruosité que représente le stalinisme, une façon historique dans l'histoire, ça c'était le résultat en tout cas, d'avoir conservé la Russie homogène. Donc, si vous voulez, c'est aujourd'hui un peu... ce qui fait le paradoxe de la façon de juger Staline en Russie, si vous voulez. C'est-à-dire que cette histoire de nostalgie par rapport à Staline, qui existe en Russie, à mon grand regret, je dirais.
Les peuples et les opinions oublient vite, elles oublient aussi.
Oui, mais enfin, par exemple, ils n'oublient pas, alors, vous me direz, c'est plus récent, et ils n'oublient ni Gorbatchev ni Yeltsin, hein, pour les rejeter.
Mais je faisais avec Vladimir Federovski une émission qui passera ce soir d'ailleurs sur Alexandre Yakovlev, particulièrement le diable boiteux du Kremlin, son dernier livre, particulièrement haï encore aujourd'hui en Russie.
Oui, Bon, mais je dirais donc, non, le stalinisme n'a pas de rejet ethnique, déjà, ne serait-ce que parce que Staline, c'est un géorgien qui devient le grand dictateur de la Russie. Enfin, c'est quand même pas très... Alors, je comprends bien que Napoléon est corse, mais enfin, quand même, c'est difficile d'avoir une démarche, justement, basée sur des aspects ethniques et de rejet et de discrimination systématique pour des raisons ethniques. Même si par ailleurs, il y a eu bien évidemment parmi les staliniens des rejets ethniques ou autres, ou des discriminations qui ont existé évidemment. Pour ce qui est de savoir, est-ce que il pose la question, si j'étais dans les zones qui ont été occupées par les nazis au début de la guerre en 41, donc hein, juin 41, le début de l'offensive Barbarossa, enfin contre la Russie, l'Union soviétique, pardon, j'aurais hésité. Alors. Évidemment, mais il y a des Russes qui ont hésité. Le début de la guerre, alors ça c'est un sujet tabou en Russie d'ailleurs, hein. Au début de la guerre, il y a eu beaucoup de Russes qui se sont rendus aux Allemands, espérant justement que les méfaits de la collectivisation forcée, alors ce que la propagande du régime qui vient appelle le Golodomor, mais en fait qui est une collectivisation forcée, qui a détruit la paysannerie soviétique et essentiellement le long de la Volga. En Russie, en Biélorussie, au Kazakhstan et en Ukraine. Mais seulement et en Ukraine, pas seulement en Ukraine. Et d'autant plus que ceux qui se plaignent le plus de ça ou qui mettent le plus en avant le Golodomor, c'est justement les gens de Galicie qui, à l'époque, appartenaient à la Pologne. Donc ils ont pas été concernés du tout par la collectivisation. Faut quand même remettre les choses un peu en place de temps en temps. Hein. Alors disons que... Oui, il y a eu des gens qui ont hésité. Alors, l'exemple le plus connu, c'est Vlassov. C'était un général qui était un bon général soviétique, de leur point de vue, qui même s'était illustré, notamment dans la guerre civile en plus, hein, comme Tukhachevski, par exemple, qui, n'oubliez pas, était prisonnier avec De Gaulle pendant la Première Guerre mondiale. C'est des aspects aussi, ça, qui lie la France et la Russie d'un certain point de vue. Eh bien, un Vlassov... Il s'est rendu aux Allemands pensant qu'il allait pouvoir lutter contre le bolchevisme. Et puis en fait, ils l'ont amené au début du siège de Leningrad sur le terrain russe, après qu'il se soit rendu avec des troupes pour notamment conserver sa vie au lieu de se faire tuer tout de suite, quoi. Il a porté un toast... à la libération de la Russie du bolchevisme grâce aux Allemands, mais aussi contre les Allemands. Et il n'est plus jamais revenu en Russie, Vlassov. Hein. Il n'avait pas encore compris. C'est-à-dire que s'allier avec le nazisme, c'était fichu. Ouais. Et du coup, il est devenu un traître. Il a été un traître. Alors bon, il n'était pas nazi. Contrairement à la division SS dont vous parliez tout à l'heure de Galicie, qui eux étaient nazis. Vlassov n'était pas, mais il n'empêche qu'il est devenu un traître. Et voilà des gens qui ont hésité, mais c'est des gens qui n'y ont pas gagné. Du reste, certains des prisonniers justement soviétiques, qui quelquefois étaient passés chez Vlassov, quand ils se sont retrouvés en France, beaucoup ont rejoint les partisans français, la résistance française. Le monument au Père Lachaise où on a déposé nos gerbes hier... C'est un partisan soviétique aux côtés des Français, aux côtés de la résistance française. Peut-être un Vlassovien. Peut-être un Vlassovien qui a déserté et qui est passé aux résistants. Mmh. Vous voyez, donc, oui. Alors, pour ce qui est des Lettons, là, c'est aussi un autre souci. Hein. Les Lettons sont ceux qui ont plus... Il y a eu des détachements Lettons qui ont aidé les bolcheviks à renverser... ce qui a été le gouvernement provisoire, etc. Les Lettons, après, ont effectivement collaboré. Il y a eu des Lettons qui ont collaboré avec les nazis. Et aujourd'hui, eux aussi font quelquefois des défilés au flambeau pour commémorer leur détachement SS nazi aussi.
Dimitri, donc, on va voir le Bobino et on va après changer. On va venir dans l'actualité en deuxième partie de cette émission. À propos du nazisme du 17 auditeur, Rudolf Hess a dit le nazisme n'est rien d'autre que de la biologie appliquée. Pensez à ce qui se passe aujourd'hui. La vérité idéologique doit l'emporter sur la vérité historique.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le traitement de l'histoire, dans nos médias de grand chemin.
Cet auditeur, les USA sont entrés en guerre après la bataille de Stalingrad, de peur que les Soviétiques libèrent l'Europe jusqu'à l'Atlantique. Ils sont venus pour remplacer les armées allemandes. Ils ont colonisé l'Europe occidentale, un grand marché pour leurs produits. L'UE a été construite pour ce but. Depuis 1945, l'Europe est une colonie de l'impérialisme US. Bon, bah écoutez, je vous propose, mon cher Dimitri, de faire une très courte pause et de se retrouver juste après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie, bien sûr. Et notre sujet, c'est ces commémorations du 9 mai à Moscou, en Russie, sous haute tension, le thème principal de cette émission. N'hésitez pas à continuer, et je vois que ça va être le cas avec Sylvie qui arrive, de continuer à nous envoyer, merci, des questions. Et nous aurons bien sûr notre quatrain de Michel Dumas qui vient d'arriver, je le réserverai pour plus tard, mais il est là déjà plus qu'à l'heure, à 9h48. Très bien, on va regarder ça de près et vous le livrez dans un instant, chers auditeurs. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, remarques, observations. Est-ce qu'il y a des petites annonces? Je pense que Lara, mercredi, vous avez alerté sur un chat nommé Gaspard qui recherche une famille d'accueil, qui cherche à être adoptée. Et elle vous avait donné d'ailleurs à cette occasion son numéro de téléphone à utiliser, évidemment, que en cas de nécessité, je vous le redonne. N'hésitez pas à appeler Lara si vous avez une solution pour ce chat blanc et noir, Gaspard, de 9 mois, jeune mâle, castré, adorable. Donc vous pouvez appeler Lara au 06 26 45 08 76 67, 06 26 45 08 67, ou nous envoyer d'ailleurs au secrétariat de la radio un courriel. Elle ne manquera pas de vous rappeler. Voilà, donc, sachant qu'on espère peut-être avoir déjà trouvé la personne qui adopterait ce chat, mais ce n'est pas encore définitivement confirmé, chers auditeurs. Voilà ce que voilà l'annonce. Je rappelle cet après-midi une manifestation aussi de Florian Philippot qui se déroulera dans l'après-midi à Paris. Allez sur le site des Patriotes pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. J'y serai pour ma part tenant un discours à la tribune en fin de journée. Ce sera aujourd'hui samedi 9 mai. Bien, on revient à notre invité Dimitri de Kochko. Peut-être Dimitri, maintenant, si vous le voulez bien, aborder les tensions. En tout cas, c'est ainsi que ça nous est présenté en Russie aujourd'hui. Des cérémonies, semble-t-il, réduites à leur plus simple expression, des craintes d'attaques, de frappes, de drones, de missiles sur Moscou, ce qui fait que, il semblerait qu'on ait réduit fortement la voilure du défilé militaire sur la place rouge du 9 mai, même si les cérémonies ont lieu. Des menaces en retour aux menaces de Zelensky, des Russes demandant aux chancelleries, entre autres européennes, de bien vouloir faire en sorte que leurs représentants d'ambassade soit évacué, parce que si il y a de la part des Ukrainiens une volonté de nuire et de perturber les cérémonies du 9 mai, la Russie a menacé de frapper les centres décisionnels et le cœur même de Kiev. Donc on est sur des fortes tensions. Trump aurait hier soir obtenu un apaisement entre Zelensky et Poutine pour cette journée spécifique du 9 mai et un cessez-le-feu à voir, sachant que ces cessez-le-feu sont règle générale très peu suivis. Donc vous avez à la fois ces menaces extérieures, Dimitri, et puis aussi, semble-t-il, des tensions intérieures, des sondages en baisse pour Poutine, bon, qui reste à peu près à 2 Russes sur 3, hein. Ça ferait pâlir, ce genre de sondage ferait pâlir d'envie nos dirigeants, la brochette, les trois en particulier, Starmer, Merz et Macron, hein, qui n'ont, aucun ne dépasse les 15-20% d'avis favorables. Donc là, c'est plus de 2, c'est 3 Français ou 4 Français sur 5, Allemands ou Britanniques, 4 Français, Britanniques, Allemands sur 5, qui rejettent massivement les dirigeants français. Donc c'est vrai qu'on peut rigoler quand on parle des 65 ou 66% de Russes qui sont favorables à Poutine. Néanmoins, il y a une grogne, ou peut-être le mot ne convient pas, en tout cas un mécontentement, une certaine impopularité. Alors est-ce une impopularité de la guerre ? Ça, Dimitri va peut-être nous répondre, ou bien est-ce que justement il juge, les Russes, que Poutine ferait partie du camp de la paix et qu'il faudrait être beaucoup plus dur aujourd'hui vis-à-vis de l'Ukraine, et donc passer à la vitesse supérieure. On peut se poser la question du quelles sont les raisons politiques des tensions, et puis un certain nombre de rumeurs venant de service. Donc alors ça, c'est toujours amusant, c'est-à-dire que notre presse de grand chemin, on le sait aujourd'hui, relaie les énormes mensonges des services de renseignement, et c'est normal, les services de renseignement sont là pour renseigner et pour mentir, faire de la propagande. Et donc il se dit que Poutine aujourd'hui se sentirait menacé, soit par des attentats, soit par un attentat, soit par un putsch, un coup d'État au sein même de l'élite russe, et donc se protégerait particulièrement. Tension donc à ces deux niveaux. Je dirais que par rapport au 80e anniversaire où on avait un Poutine qui était au sommet de sa gloire, au sommet de son soutien, j'y étais, le 9 mai sur la place Rouge, donc je peux vous dire qu'en effet le soutien de la population, même moscovite, à son armée, à son chef d'État, était majeur. Est-ce que les choses sont en train de changer ?
Alors, pour ce qui est du cessez-le-feu, c'est une proposition de Poutine d'il y a déjà au moins 2 semaines, de faire un cessez-le-feu pour le temps de la célébration de la victoire. Puisque les Ukrainiens comme les Russes sont concernés, en tout cas les Ukrainiens qui évidemment n'étaient pas dans la division SS, hein, mais les autres Ukrainiens sont aussi concernés que les Russes par la fête de la victoire du 9 mai. Donc il a proposé un cessez-le-feu pour le 9 mai. Ça a été rejeté par Zelensky, qui en a profité pour faire une proposition de cessez-le-feu complètement incohérente. Je crois que c'était justement pour le 4 mai, pour le défilé de la division, de la commémoration de la division SS Galichina, qui était simplement une provocation à pied de nez, quoi. Donc c'était déjà absurde. Pourquoi ça a pris une extension, et notamment la menace Zelensky de lancer des drones et des missiles sur Moscou au moment du défilé? C'est que, en fait, ça correspond à une autre période. Après, je viendrai à la réponse russe. Ça correspond au fait qu'il y a des offensives de drones et de missiles intensifiées depuis à peu près 2 mois et demi. Et donc, c'est analysé par les Russes comme une implication directe des pays de l'OTAN, de l'Union européenne essentiellement. En tout cas, c'est nous qui payons le plus. Mais des Américains aussi, malgré leur hypocrisie, ils continuent à fournir toutes les informations satellitaires, etc. Hein, Starlink et les autres informations satellitaires, et des armes américaines continuent à parvenir, même si une autre partie est partie vers Israël ou vers les pays arabes alliés. Mais il n'empêche qu'ils continuent à recevoir des armes en Ukraine, et ça s'est nettement intensifié. Et la fabrication de drones dans les pays européens s'est beaucoup intensifiée. Donc il y a une implication directe des pays de l'Union européenne dans la guerre contre la Russie. Encore une fois, la guerre sur le territoire ukrainien n'est pas vraiment considérée en Russie comme une guerre contre l'Ukraine. C'est une guerre avec l'OTAN. Donc la Russie lutte contre 52 pays à peu près, hein, ou 53 même. C'est pas contre l'Ukraine seule, parce que l'Ukraine seule, elle n'aurait pas forcément tenu. Du reste, elle avait demandé de signer une armistice dès mars 2022. Mmh. Hein, c'est, n'oubliez pas que c'est les Britanniques, sans doute télécommandés par les Américains, qui l'ont refusé. Qui ont refusé de signer, donc, alors que l'accord avait été fait, y compris sans doute pour que le Donbass puisse, tout en obtenant une autonomie qui était prévue dans les accords de Minsk, rester éventuellement ou revenir dans le giron ukrainien. Tout ça a été donc jeté par l'OTAN, qui pensait, compte tenu des préparations qui avaient été faites depuis 2015, pensait mener la guerre et gagner la guerre assez facilement contre la Russie. Ce qui explique les déclarations de M. Maire, dont on rit beaucoup aujourd'hui. De Le Maire, de ruine de la Russie, l'économie russe. Bon, ça, c'est la réponse russe, notamment par Mme Zakharova, que vous aviez fort bien interviewée.
Lara Stam avait fort bien interviewée. Tout à fait.
Géopolitique profonde.
Oui, oui, absolument.
Très bien interviewé. C'est inhabituel. C'est-à-dire dire aux chancelleries, évacuez vos gens de Kiev parce qu'on risque de frapper si jamais ils nous envoient, si jamais vous nous envoyez des missiles et des drones, même si on prend le couvert ukrainien, comme finalement les Occidentaux prennent le proxy, comme on dit, ukrainien,
ouais.
C'est nouveau. C'est pas forcément. Alors, c'est une menace réelle. Hein. C'est une menace directe contre les pays qui font la guerre en réalité, puisque c'est eux qui produisent les drones et c'est eux qui renforcent l'offensive de drones contre la Russie depuis 2 mois. Ça a aussi une dimension que moi je pense aussi être peut-être pas du bluff. Il faut pas dire ça, mais en tout cas. Il est peu probable que les Russes aillent, par exemple, se débarrasser de Zelensky. Sinon, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils ne veulent surtout pas transformer Zelensky en martyr.
Oui,
ils veulent que Zelensky se déconsidère lui-même à force d'être un vova, comme vous dites.
Mmh.
C'est-à-dire d'acheter des maisons un peu partout avec les 90 milliards qu'on lui donne. Bon, je schématise, je caricature.
À peine.
Je caricature, bien sûr, mais disons qu'ils ont choisi ça. Ce n'est pas forcément très populaire. Donc, le message de Zakharova, c'est aussi à destination de l'opinion publique interne.
Mmh.
N'oubliez pas que la Russie est entrée en campagne électorale.
Voilà.
En septembre, il y a un renouvellement de la Douma. Sur, en plus, avec des modalités qui ont changé. Avant, on pouvait élire des députés pour des partis et des députés sur des éléments régionaux.
Ouais.
Maintenant, il n'y a que des partis. Donc, ils ont changé les modalités d'élection.
C'est une élection proportionnelle, vraiment, maintenant.
Là, c'est plus compliqué que ça, mais disons que les choses ont changé et ils le prennent au sérieux. La campagne existe.
Mmh. Oui, contrairement à ce qu'on peut prétendre. Oui.
Alors, c'est vrai que la majorité des partis sont évidemment pour la défense de la Russie. C'est-à-dire, il n'y en a pas qui sont sur la ligne otanienne, comme a pu l'être. D'ailleurs, moi, je pense qu'il n'était pas complètement. Hein. Navalny était certes manipulé par les Occidentaux, et il s'est sans doute laissé trop manipuler, parce que c'est ça qu'il a déconsidéré, en fait. Mais sinon, il était plutôt plus proche, disons, des thèses otaniennes. Bon, alors, sans compter, évidemment, tous les Russes qui ont été financés soit par l'USAID, soit par Soros, etc.,
oui.
qui se tiennent sur cette ligne-là.
Bien sûr.
Bon, voilà. Ça, c'est,
mais ça cela, reste vraiment une infime minorité.
Ça reste une minorité parce qu'on sait que c'est la survie de la Russie qui est en cause, puisque le démantèlement de la Russie ne fait pas mystère. C'est le projet de la RAND Corporation qui a été maintenant affecté, en quelque sorte, à une sorte d'opposition russe qui voudrait démanteler la Russie. C'est soit des irresponsables, soit des ambitieux, parce que, bien évidemment, le but, c'est de faire des seigneurs de la guerre qui vont s'affronter entre eux et qui vont permettre aux grandes compagnies américaines d'avoir les matières premières en tout cas dans des conditions très favorables, quitte à créer une petite couche de compradors oligarques ultra riches, un peu sur le modèle des monarchies du Golfe, si vous voulez. Hein.
Mm-hmm.
Ce qu'ils ont fait dans les années 90 en Russie. Hein. des Khodorkovsky et autres, ce sont des oligarques qui ont été admis, mais qui ont par ailleurs vendu pour pas trop cher aux grandes compagnies occidentales.
D'accord.
Les matières premières, encore une fois. Mmh. Et c'est ce qui est visé. Ça a été déjà dit, c'est pas un secret, je veux dire, c'est comme ça. Alors ça, les Russes s'en rendent compte quand même. Hein. Donc de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'il y a une unité nationale, en quelque sorte, si vous voulez, en tout cas. Alors, mais la campagne se joue quand même au niveau des individus, bien évidemment, et puis de ce qu'on peut avoir ou pas avec les Doumas. Alors, avec des éléments régionaux, avec des éléments claniques, avec tout ce que vous voulez. Ces éléments-là, on peut dire aujourd'hui que, justement, compte tenu de la campagne électorale, compte tenu des élections à venir, compte tenu aussi de la situation internationale, il y a incontestablement une tension qui était due, et on en a déjà parlé plusieurs fois, bien qu'on était parmi les seuls, et au niveau économique, la Russie, oui. Alors qu'elle est dans un contexte plutôt favorable, arrive à avoir un recul de sa croissance les deux premiers mois de l'année.
Oui, il y a un recul de la croissance, il y a une tension sur la main-d'œuvre, il y a... Voilà,
il y a des entreprises qui devraient prospérer, se développer, qui ne le peuvent pas compte tenu de
les taux d'intérêt.
Crédit, de la politique du crédit de la Banque centrale. La politique du crédit, ce n'est pas que le taux directeur, qui est terriblement élevé, qui est exactement le contraire d'ailleurs de ce que fait Trump, par exemple.
Ah oui, totalement, que souhaite faire Trump, d'ailleurs, oui, plus encore que ce que fait,
que ce que fait
la Fed.
Ouais. Oui, oui. Mais le problème, c'est ça, c'est que la Banque centrale de Russie, elle dépend de la Fed et elle dépend des institutions de type FMI et Banque mondiale. Il y a un problème de masse monétaire russe. Ils sont encore une fois dans une espèce d'idéologie monétariste où ils considèrent que les seules devises qui permettent d'accroître la masse monétaire en France, ce sont les investissements étrangers. Mais pourquoi pas les investissements russes ? Du coup, les investissements russes sont gênés, sont empêchés. Alors la question, c'est de savoir, mais est-ce que c'est fait exprès ? Ou est-ce que c'est simplement une idéologie monétariste, en quelque sorte, un peu attardée et c'est ça qui agite. Alors là,
donc ça s'ajoute.
Les affrontements entre les tours du Kremlin, comme on aime à dire.
Oui. Alors ça s'ajoute.
Là, il y a tension. C'est là qu'il y a la tension.
Il y a une tension sur le plan économique, clairement. Donc ça peut avoir des répercussions sur les élections législatives de septembre. Vous avez ceux qui considèrent que Poutine est trop mou. Il faudrait plus de guerre parce que on est beaucoup plus
plus déterminé.
Oui, enfin voilà, oui, plus de guerre, plus déterminé, mais en tout cas pas plus de paix. Et ça, c'est probablement pas un fait majeur. On en a parlé considérant justement les néolibéraux très peu nombreux de type Navalny en Russie. Est-ce qu'il y a aussi des tensions avec des risques ? Est-ce que c'est sérieux ce que disent les services de renseignement sur des menaces de putsch ?
Alors bon, moi j'en sais rien parce que moi j'ai rien à voir avec les services spéciaux, mais en plus je pense qu'ils sont un peu manipulés parce que ça m'étonnerait que des services, c'est des sources qui sont attribuées à des services spéciaux. Je pense pas.
Pays baltes en plus.
Je pense, voilà, c'est ça. Ça me paraît. Ça c'est du bourrage de mots. Mais malheureusement. On le reprend et la presse de grand chemin reprend facilement ce genre de truc.
On le verrait très peu. Il serait même dans des Krasnodarsk, enfin dans des endroits particuliers.
C'est plutôt Sotchi que Krasnodar.
Enfin. Oui, enfin en tout cas dans le sud de la Russie.
Mais non, mais regardez. Là où il peut y avoir tension, c'est une tension politique, effectivement. Parce que on a parlé du fait que les deux ou trois premiers mois de la Russie, là, la croissance économique a été négative, ou a été en tout cas en baisse. Et Poutine est intervenu sur le sujet. Il était déjà intervenu à la fin de l'année dernière en disant que le taux directeur, ça s'expliquait pas bien quand même, qu'il fallait peut-être pas exagérer cette fameuse lutte, ce pseudo-lutte contre l'inflation, alors qu'il faudrait quand même examiner aussi les causes de cette inflation. Et puis aussi examiner les aspects positifs de cette inflation. Parce que d'un pays qui se développe intensément, il peut être inflationniste dans la mesure où le niveau de vie, lui, ne baisse pas par rapport à l'inflation. Bon, bah, si le si le signe monétaire effectivement est victime de l'inflation, ça ne signifie pas que le niveau de vie de la population lui baisse. Donc ça, c'est assez important.
Oui.
Et la tension, c'est que Poutine a l'air de s'en être mêlé. Il s'en est mêlé donc une fois à la conférence de presse en disant que l'autodirecteur va peut-être falloir voir. Et du coup, il a été baissé d'un demi-point. Là, il est intervenu pour dire, attendez, on comprend pas bien. Et il a réuni notamment les ministères économiques et la gouverneuse ou la gouverneure de la Banque centrale, Madame Nabiullina, pour dire, eh oh, ça va pas là. Hein. La croissance, faut quand même la maintenir. Ça veut dire en clair, et alors si on lit un petit peu entre les lignes les différents échanges qu'il peut y avoir dans ce domaine, on peut comprendre que, on peut en tout cas supposer que Poutine et un certain nombre de gens autour de lui semblent vouloir réagir à l'influence de la cinquième colonne, ce qu'on appelle la cinquième colonne, dans l'élite russe, entre guillemets.
Oui.
Qui a tendance à ou à mener une politique qui ne permet pas un développement de la Russie ou à saboter l'économie russe sur commande. Et c'est là qu'est la tension. C'est ça, là-dessus, elle a la tension. Mais ça ne veut pas dire pour ça que Poutine est obligé de se mettre dans un bunker. Hein. De toute façon, la sécurité de Poutine, à mon avis, elle est quand même pas mal assurée. Et ils savent très bien que beaucoup d'Occidentaux essaient de se débarrasser de Poutine.
Et ça, alors, ça, c'est plutôt des risques d'attentat que de putsch.
Oui, ils trouvent la personne ad hoc. Hein. Regardez, si on va dans l'histoire russe, l'assassinat de l'empereur Paul Ier, qui avait des relations excellentes avec Napoléon. Un moment très peu connu, hein, ça, dans l'histoire franco-russe.
Ouais.
On devait faire une marche sur l'Inde. Entre la Russie et les Français ensemble, contre les Britanniques. Vous vous rendez compte? Bon, bref, c'est ces passages-là. Eh bien, Paul Ier, il était assassiné par des nobles russes, manipulés par les Anglais.
Et oui.
Et du coup, Alexandre Ier, fils de Paul Ier, et Napoléon ne manquait jamais de le rappeler à Alexandre Ier, ce qui explique des relations un petit peu orageuses, des fois, à changer de politique totalement et à mener une politique pro-anglaise. Là aussi, la Russie et la France sont un peu semblables. On se fait rouler par les Anglais très souvent.
On a des auditeurs. On va peut-être redonner droit aux remarques des auditeurs. Bonjour, messieurs. Un auditeur qui n'est pas d'accord avec vous, Dimitri. Pas de persécution ethnique chez Staline, point d'interrogation. Allez dire cela aux Tatars, aux Ingouches, Polonais, Baltes. La situation la plus ubuesque est celle des Finlandais, avec une armée comportant quelques Juifs qui s'est rangée aux côtés des nazis par hostilité envers les Soviétiques. D'ailleurs, jusqu'à 2 ou 3 ans, la croix gammée figurait sur le drapeau de l'armée de l'air finlandaise, mais pour être honnête, le symbole fut choisi avant 1933. Donc lui, cet auditeur dit qu'il y a eu des persécutions ethniques.
Non, c'est pas idéologique.
Staline.
Et d'autre part, les Tatars, les Tchétchènes, c'est pas les Ingouches, ils ont été accusés de collaboration. Moi, à mon avis, je pense d'une manière injuste, un peu trop systématiquement, mais. Par exemple, les Tchétchènes qui ont été déportés vers l'Asie centrale à la fin de la guerre, justement, effectivement, par Staline. Beria voulait, au moment où ils allaient traverser la mer Caspienne, voulait couler le bateau où il y avait Et c'est Staline qui s'y opposait. Et s'y opposait, alors là, typiquement par des mentalités de Staline, c'est-à-dire non pas parce qu'il aimait les Tchétchènes, mais parce qu'il disait, attention, ça c'est quand même des éléments de division demain si on en a besoin.
Vous ne voulez pas insulter l'avenir. Le message pour Géopolitique Profonde. Chers amis, très intéressante émission. Je voudrais cependant réagir à votre intervenant à propos des très nombreuses tentatives d'analyse du nazisme, dont celle que vous avez citée, qui voudrait voir dans le nazisme une défense du capitalisme. Cette théorie me semble assez douteuse, bien que le nazisme, comme le communisme d'ailleurs, fut en partie financé par Wall Street et les grandes industries. Cependant, ce fait n'est pas de nature idéologique, mais bien crapoteux de la part de puissances qui pariaient sur le canasson nazi. Il n'est pas inutile de rappeler que le nazisme est une déclinaison allemande du fascisme, qui lui-même est issu de la matrice marxiste, puisque le fascisme est né des syndicats socialo-communistes italiens, qui constatent que la révolution ne pouvait pas être internationale. On fondait le fascisme en pensant que des révolutions nationales, en affirmant que la future lutte des classes aurait lieu entre les nations bourgeoises et les nations prolétaires. Rappel historique qui me semble nécessaire et bat en brèche la théorie du nazisme comme réaction au capitalisme. Si c'était le cas, alors ce serait contre son caractère oligarchique et international et donc mondialiste. Ceci expliquant cela.
Oui, c'est bien, on peut avoir des vrais débats.
Oui.
Et sur Radio Courtoisie, c'est possible, d'ailleurs, c'est pas possible.
Ah non, non ah, voilà. Là, voilà, on arrive à un degré de qualité en plus avec nos auditeurs qu'on a nulle part ailleurs. Non, ça, je suis bien d'accord.
Les éléments qui sont.
Un auditeur au standard, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Comment l'Union européenne peut-elle envoyer 90 milliards d'euros sans demander les factures? C'est évident.
Attendez, on en a envoyé beaucoup plus, c'est haut. Ça, c'est ce qui va arriver.
Ce
qu'on a déjà payé là-haut.
Largement. Largement.
Vous demandez à Vova.
Une auditrice, bonjour Nicolas et monsieur de Kochko, j'ai deux amis russes, effectivement, et comme l'a dit monsieur de Kochko, elle regrette Staline, je comprends mal. Lorsque je leur parle du goulag ou du romancier qui a écrit sur le goulag, donc c'est Solzhenitsyn.
Je suppose Solzhenitsyn, mais avant il y avait eu des gens qui avaient déjà écrit sur le goulag. Hein.
Elles me répondent que ce sont des traîtres. Ceci dit, je voulais vous écrire ce que Milan Hubel, tchèque, a écrit. Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. Et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas plus éphémère que la mémoire collective? C'est ma petite intervention et vive Poutine! Une émission toujours suivie avec grande attention, Nicolas le sait. J'ai enfin trouvé le moyen d'écrire depuis mon ordi. Ouf! C'est vrai, cette histoire de mémoire collective, rien de plus fragile.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on a fait notre procession aussi.
C'est ça.
Ouais. Bien sûr que c'est normal. Bien sûr que c'est important.
Alors, Michel Dumas, le quatrain de Michel Dumas, cette semaine, ce samedi, sur Radio Courtoisie, le livre journal de géopolitique profonde. Il est 10h15. Ce 9 mai, place rouge, l'armée russe défile, source d'inspiration, d'objectifs cinéphiles. Marionnette Vova, qu'agite Zéléphis file, sur les planches Bulan, fait pouffer Bédéphile. Merci Michel Dumas. Il nous reste une dizaine de minutes, Dimitri, finalement, moi j'aimerais vous interroger, c'est un sujet qui est récurrent et sur lequel je pose des questions en général à mes invités, c'est cet Occident qui semble aller, on parlait de risque d'attentat contre Poutine, et des conséquences tout à fait extraordinaires, enfin dramatiques, au sens extraordinaire, hein. Non ordinaire que cela pourrait avoir, de ces élites, elles, bien réelles occidentales, et européennes en particulier, qui semblent pousser à l'Armageddon, qui semblent pousser jusqu'à la guerre, à cette confrontation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et comment l'expliquez-vous et croyez-vous qu'elle a une chance de réussir?
Malheureusement... Là aussi, bon, vous avez la réponse habituelle de « on ne lit pas dans le marc de café hein. ».
Oui.
Mais oui, c'est très inquiétant. Oui, c'est très inquiétant parce qu'il y a de... Maintenant, on pense que c'est un risque qui est plus réel qu'avant. Donc c'est un peu embêtant qu'on progresse...
Il semblerait que les Russes eux-mêmes, je posais la question à un Russe hier, semble de plus en plus penser comme inéluctable une guerre en Europe.
Ouais. Ça devient, oui, moi, je le vois de plus en plus dans toutes les interventions, notamment d'officiers ou d'anciens officiers qui font des YouTube. Hein. C'est nettement guerre inévitable. Les dirigeants européens envisagent une guerre et. Ce qu'ils ressortent de ce qu'ils disent les Russes, mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est évidemment toujours difficile de savoir. Hein. Mais ils ne comprennent pas. Quoi. Ils ne comprennent pas. D'abord, ils comprennent pas cette négation de la véritable Europe, qui forcément comprend aussi la Russie.
cette volonté d'autodestruction, puisqu'il n'y aura pas de vainqueur. En plus, l'Europe occidentale, elle n'a pas d'arrière-pays, elle n'a pas d'espace stratégique derrière. Enfin, alors évidemment, si on envisage des frappes nucléaires, moi j'ai posé des questions là-dessus, hein, sur les frappes nucléaires qui pourraient frapper la France, parce que il y a eu des fois, j'ai discuté avec des politiciens russes qui disaient pourquoi ils s'imaginent que ça serait une guerre comme en Ukraine ? Ce sera pas du tout une guerre comme en Ukraine. En Ukraine, faut pas oublier quand même que la plupart des Russes, y compris des militaires russes qui combattent en Ukraine, ils ont un oncle, un grand-père ukrainien. Enfin, le mélange russo-ukrainien est total. Les responsables russes, oh là. Les responsables russes sont ukrainiens aussi. Donc il y a l'aspect guerre civile là-dedans. Et ils ne peuvent pas se conduire, encore une fois, on avait dit l'exemple, mais ils ne peuvent pas se conduire comme les Israéliens au sud Liban ou à Gaza. Mmh. Ils ne peuvent pas. Pourquoi même ils ne détruisent pas le centre de Kiev ? Parce qu'ils considèrent que Kiev est une ville russe. Donc, voyez, il n'y aura pas la même chose avec l'Europe occidentale. Si jamais ils en arrivent effectivement à considérer que des pays européens ou l'Union européenne s'impliquent directement, ce qu'elle fait déjà. Mmh. Et les Russes le patientent et ne font rien. Et parmi les critiques qu'il y a contre Poutine, il y a aussi la référence à l'Iran, qui lui s'est défendu. C'est ça qu'on dit en Russie souvent, hein. Lui, au moins, il se défend, tandis que nous, rien, on fait rien. Puis là, ils se mettent à balancer des drones partout sur toute la Russie. Oui. Ça commence à toucher la population russe, effectivement. Ce qui était le but avoué des Britanniques, des Français, des Allemands, qui dirigent ces attaques de drones sur la Russie.
Ouais.
Mais ça va avoir aussi une conséquence, c'est que la riposte va être beaucoup plus terrible. Et c'est là qu'on peut avoir un glissement. C'est que, en droit, ce qu'ont invoqué les Iraniens et qui ont créé un précédent en frappant les bases américaines qui se trouvaient dans les pays, les pays arabes, en disant il y a implication. Donc, en droit international de la guerre, on a le droit de les frapper, puisqu'ils frappent à partir de là.
Tout à fait.
Eh bien, si les Russes disent la même chose à propos des pays d'Europe occidentale et qu'ils envoient... Même un Oreshnik, même pas une charge nucléaire contre certains centres de fabrication des drones. Et ils ont publié les adresses.
Tout à fait. Tout à fait.
Vous vous rendez compte ? On glisse très vite. Donc, ce que disent les Russes qui savent ou qui sont censés savoir, ils disent, vous savez, sur la France, évidemment, ça sera pas une centaine de kilotonnes d'un seul coup pour détruire Paris, bien évidemment, parce qu'on tient à Paris. Tout le monde, c'est pour des raisons historiques justement et pour des raisons d'affection aussi. Hein. Mmh. Mais ce sera sur les centres jugés stratégiques avec des missiles. Enfin, il suffit d'un seul missile, vous avez 14 têtes. Hein. Si chacune fait 10 kilotonnes, c'est-à-dire ce qu'on a eu à Hiroshima. Non, ils peuvent 10 ou 15, ils parlent de ça.
Chaque ogive fait 100 kilotonnes.
Non, mais ça, c'est la destruction du pays totalement.
Ah bah...
Bon, mais vous voyez ce qu'on risque. Il faut quand même arrêter, quoi. Et nous, bon, on aura un sous-marin nucléaire qui arrivera à tirer un missile sur la Russie.
Peut-être.
Il détruira peut-être Moscou, il détruira peut-être pas Saint-Pétersbourg, a priori, sera plus difficile. Mais enfin, disons, il va détruire une ou deux villes russes. Et alors, ils ont toute la Sibérie derrière. À la limite, c'est eux qui s'en tireront, c'est pas nous. Enfin, moi, je trouve que il y a une politique irresponsable.
Ouais.
Alors, bien sûr, ils montent aussi la mayonnaise en se disant, de toute façon, les Russes vont pas attaquer parce qu'ils ont pas les moyens, parce qu'ils peuvent pas, etc. Ils ont effectivement pas les moyens d'envoyer des troupes à terre. Alors ça, c'est évident. Hein.
Oui,
et d'ailleurs, ils en ont absolument pas l'intention.
Exactement.
Et ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est les investissements occidentaux. D'ailleurs, c'est ce que fait Monsieur Dimitriev, là, Kirill Dimitriev, qui est quand même quelqu'un de très ambigu, à mon sens. Est-ce que c'est carrément la cinquième colonne, justement, contre la... Enfin, il est à la fois protégé par Poutine et il semblerait qu'un certain nombre de ses amis sont quand même un peu remis en cause aujourd'hui. Hein? Bon, je sais pas, là je m'y retrouve pas assez. Mais c'est de ce côté-là qu'il faut chercher ce qui se passe réellement. Parce qu'il faut que le niveau de vie des Russes augmente. C'est ça le grand problème. Et avant les élections, je pense que Poutine va essayer de faire ça.
Oui, bien sûr. Bah, on l'imagine.
Et pour que le niveau de vie des Russes augmente, il faut que les entreprises repartent, que donc elles aient accès au crédit et à l'investissement russe, et pas forcément uniquement par des investissements cachés que les oligarques ont introduits depuis les années 90, où ils mettent leur argent dans les zones offshore en tout genre, dans les paradis fiscaux en tout genre, y compris quelquefois en Suisse, par exemple. Donc, vous voyez, c'est des... Et puis ensuite, ils investissent comme s'ils étaient une entreprise étrangère.
Oui.
Mais tout ça, ça fait des circuits d'argent. Il y a encore beaucoup de roubles qui sortent de Russie alors qu'ils ont besoin de sous. Ça aussi, c'est pas normal. Et ça aussi, il y a des questions qui se posent là-dessus.
Ça, c'est les
et c'est des grosses discussions qu'il y a. Même, il y a des tendances à la Douma qui dénonce ça.
Oui.
Voilà les tensions qui existent, les vraies tensions. C'est pas Poutine va aller dans le bunker après avoir eu toutes les formes de cancer, toutes les formes de sclérose en plaques et je ne sais quoi d'autre que l'ex-lieutenant du KGB là, dissémine sans arrêt sur les télévisions de grand chemin.
Merci Dimitri de Koshko. Écoutez, cette émission va s'achever dans 2 minutes. Un auditeur. Pour combattre la corruption, ne faut-il pas aller au rassemblement des patriotes aujourd'hui à 15h, place des pyramides à côté du Louvre? Bah, évidemment, j'y serai, je vous dis, justement. C'est un moyen de combattre, justement, la corruption. Corruption où on apprend que, bon, vous avez en effet des dizaines de milliards, mais qu'il y a des rétrocommissions, c'est-à-dire il y a 7, 8, 9% qui reviennent ensuite et que nous aurons probablement demain des scandales identiques à ce que nous en avions connu avec les SMS Pfizer de von der Leyen. Nous aurons probablement un jour la même chose avec avec le financement de la guerre en Ukraine par l'Union européenne. C'est une immense machine de corruption qui est en marche et qui fonctionne très très bien malheureusement. Eh bien écoutez, on arrive vers la fin de cette émission puisque il nous reste à peine 1 minute. Le temps pour moi de remercier à la technique, eh bien évidemment Virginie pour cette réalisation de cette émission. Merci encore à elle et de sa patience aussi et de son professionnalisme. Je remercie nos bénévoles, car nous en avons besoin, comme nous avons besoin de votre aide financière, chers auditeurs, eh bien, nous avons besoin de nos bénévoles, patrons d'émission, et aussi, par exemple, eh bien, au secrétariat standard, vous avez aussi des bénévoles de ce matin, on en est très heureux, en la personne de Sylvie et de Jean-Loup. Voilà, cette émission s'achève, je remercie bien évidemment Dimitri de Koshko, pour cette émission.
Merci à tous, une bonne journée. Et ceux qui vont manifester, bon courage.
Et bon courage pour les manifestants.
Il fait beau.
Voilà, il fait beau aujourd'hui, profitons-en, sortons dans Paris. Merci chers auditeurs de votre écoute, je vous dis à vendredi prochain, Florilège des Arts, et samedi prochain, Libre Journal de Géopolitique Profonde. Merci.
Vous venez d'entendre Géopolitique profonde, dirigée par Nicolas Stocker, diffusée en direct sur Radio Courtoisie samedi 9 mai 2026, de 9h à 10h30 et réalisée par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat 75 016 Paris.